RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Florel Mandat.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, à 3 jours de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous abordons la question de la plainte. Dans le monde, une femme sur trois a déjà subi des violences physiques, psychologiques, sexuelles dans l'espace public, au travail et au sein du foyer. En France, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, 225 000 femmes en 2016 avaient été victimes de violences conjugales. Une femme tous les 3 jours est tuée par son partenaire. Or, seules 19% d'entre elles ont porté plainte. Un an après le mouvement MeToo, les femmes au travers du hashtag Why Didn't I Report, pourquoi je n'ai pas porté plainte, s'exprime sur la raison de leur silence. Justement, pourquoi si peu de femmes portent plainte? La lourdeur de la justice, l'inadaptation à des services de police sont-ils en cause? Qu'en est-il du délai de prescription pour porter plainte? Et en Afrique, comment ça se passe? Nous en discutons avec nos invités. En studio, bonjour Catherine Perel-Mutter.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit de la famille, vice-présidente de l'association Avocats Femmes et Violence.
Oui.
Marie-France Casalis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de l'association Collectif Féministe Contre le Viol. Bonjour Muriel Salmona.
Bonjour.
Psychiatre, vous êtes aussi la fondatrice et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Un petit peu plus tard dans l'émission, nous serons en ligne depuis Dakar avec Awa Cissé, membre de l'association des juristes sénégalaises défendre les droits des femmes et des enfants. Quant à vous, les voisins, les voisines, si vous êtes concernés par cette question de la plainte, si vous avez vécu cette situation, que vous souhaitez partager vos expériences, vos témoignages, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro pour les messages WhatsApp.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Alors, on le sait, le mouvement quasi mondial de MeToo a libéré la parole des femmes. En atteste d'ailleurs un chiffre significatif. En France, le nombre de signalements pour violences sexuelles auprès de la police est en hausse de 23,1% en un an. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Tatiana. Elle a 33 ans, elle est parisienne et fait partie de ces femmes qui ont choisi de porter plainte. Elle raconte au micro d'Alice Milo.
Ce jour-là, c'était le 1er septembre 2018. C'était le mariage d'une de mes meilleures amies. Donc il y avait eu le mariage civil à la mairie le midi et on se retrouvait le soir pour un pot, pour fêter voilà, le mariage. Donc je suis arrivée vers 19h avec mon vélo. C'était à 10 minutes en vélo de chez moi. On a passé une super soirée, on a rigolé, il y avait plein de copains, il y avait la famille, enfin une soirée de mariage hein, classique. Ils avaient décoré la salle avec des énormes bouquets de gypsophiles. Et donc à la fin, elles n'allaient pas être perdues, donc elles ont été distribuées à tous les invités. Et donc je suis allée récupérer mon vélo et j'ai attaché le bouquet de gypsophiles sur le porte-bagages avec l'étendeur. Et puis là, je me suis dit, oula, je suis quand même pas très très fraîche, attention sur la route, vas-y prudemment. Et puis à un moment dans mon trajet, c'était en côte, et là je sens en fait quelqu'un qui accroche mon porte-bagages. Donc je me retourne, je comprends pas très bien, les fleurs tombent. Donc là, ma première réaction, c'est mais pourquoi vous voulez prendre mes fleurs? Et puis l'homme ne parle pas, il commence à avancer vers moi, et là, j'ai un pressentiment, mais comme chaque femme à Paris avec un homme qui vous aborde à 2h du matin, bon, on se méfie. Et donc je me dis là, oh, je vais pas récupérer mes fleurs. Donc je repédale et je repédale assez vite jusqu'à chez moi. J'arrive devant le hall de mon immeuble et au moment où je suis au milieu de l'entrebâillement de cette porte, je sens une main sur mes fesses. Et donc je me retourne très 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 vite en lâchant mon vélo et là je vois l'homme que j'ai vu plutôt avec les fleurs et qui pose ses deux mains sur mes seins, il caresse mes seins. Et là, je sens et je perçois que l'acte sexuel a commencé pour lui. Et il est déterminé à ce qui se passe, à violer une femme dans le haut de son immeuble. Je hurle et je me débat. Lui continue à me caresser, à toucher mon corps, à caresser mes seins. Et là, je déploie une force herculéenne. J'arrive à le repousser derrière un peu la porte et à pousser de toutes mes forces, mais par contre il pousse sur la porte.
Vous êtes chacun d'un côté de la porte, lui il pousse d'un côté et vous dans l'autre sens.
Exactement, et la porte est toujours entrebâillée et à un moment je vois deux autres hommes arriver de chaque côté de sa tête Et là, la peur de ma vie est en train de se transformer en un cauchemar. C'est-à-dire que là, je me dis, ils sont trois. Je ne m'en sortirai jamais. Je ne peux pas pousser. Et je ne sens plus de pression sur la porte. Donc, je ne comprends pas bien. Je vois que l'agresseur a disparu du champ de vision derrière la porte. Il ne reste que dans mon champ de vision à droite, un homme au crâne rasé et qui me dit « police, police, police ». Et là, je comprends que je suis sauvée. Je comprends qu'en fait, l'autre policier l'a mis à terre, l'a menotté et l'a mis dans le véhicule de police. Et donc, il me demande tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, je dis tout de suite, il m'a touché les fesses et les seins. Et je dis tout de suite, mais c'est pas grave, il s'est rien passé. Moi qui suis dans un environnement où on est très sensibilisé à ça. J'ai fait une campagne de com, moi, contre le harcèlement sexuel dans le métro. Moi, je dis, il ne s'est rien passé. Il m'a juste touché les fesses et les seins. C'est la première phrase que je dis au policier. Il me dit tout de suite, non, c'est très grave ce qui vient de se passer. Mais il a fallu qu'il reste une demi-heure avec moi dans ce hall d'immeuble pour que je comprenne ce qu'il disait. Je ne comprenais pas. Dans ma tête, je me disais, mais c'est rien. Il n'est pas allé jusqu'au bout, ça va aller. Et ma deuxième pensée, c'est effectivement, c'est de ma faute. Je suis rentrée seule, à vélo, en robe courte. J'avais trop bu, je ne me suis pas protégée de ça. Parce que ça existe, on le sait, toutes les femmes le savent. Et le policier me répète ça. Plusieurs fois, je m'en souviens très bien. Personne n'a le droit de vous toucher si vous n'avez pas envie. C'est grave, jusqu'à ce que ça rentre dans mon cerveau, je crois. Après, il dit, mais est-ce que vous voulez pas porter plainte tout de suite? Voilà, il était quasi 3h du matin, je rentrais de soirée. Mais il me dit, il faut venir demain matin. Hein. Et là, il me redit, c'est très grave ce qui s'est passé. Nous, on le met en cellule, là. On l'emmène en garde à vue. Et là, le travail du policier est fondamental à ce moment-là dans le hall de mon immeuble parce que sans ça, sans ses paroles, sans le temps qu'il a passé avec moi, je rentre chez moi, je fume 200 clopes et je me couche, mais je fais pas tout ce que j'ai fait. Si les policiers n'étaient pas intervenus, ce serait allé très loin. Ils voulaient me violer. Et ça, je le rajouterai d'ailleurs à chaque fois et au procès, ça a été mes derniers mots aussi, parce que je l'ai senti. Et qu'une femme, ça sent ça. Une femme à Paris qui a l'habitude d'être un peu emmerdée, elle sait la différence entre des attouchements et un type qui veut vous violer.
Alors, Tatiana a donc porté plainte le lendemain de son agression. Son agresseur égyptien sans papier et connu des services de police a été condamné pour agression sexuelle à 10 mois de prison ferme, 2000 euros de préjudice moral et une interdiction d'accès au 19e arrondissement de Paris où vit sa victime. Que vous inspire le témoignage de Tatiana, Marie-France Casalis ?
Magnifique. Magnifique parce que elle a réussi alors qu'elle était sous terreur et qu'elle savait... Elle redoutait, elle voyait le scénario. Elle a réussi quand même à mobiliser son énergie physique d'abord et persister dans cette opposition des deux côtés de la porte. Mmh. Et le docteur Salmona va nous en parler. Beaucoup d'entre nous n'ont pas, au moment de l'agression, au moment de ce choc terrible, suffisamment de ressorts pour pouvoir continuer à faire ça.
Parce que choqué.
Oui. Parce que le choc provoque des conséquences, on va les voir avec Muriel Salmona. Mais ce qui est formidable aussi, c'est l'attitude des policiers.
On va en reparler ça justement. Alors justement, Muriel Salmona, un mot.
Oui, bah, là effectivement, ce qu'on peut voir dans cette situation, c'est que c'est les situations habituelles où les femmes sont en hypervigilance par rapport à ce qui risque de se passer. Mm-hmm. Mais c'est un tout petit pourcentage des viols et des tentatives de viol. Voilà. C'est 10% avec une personne inconnue de la victime.
Oui.
Dans 9 fois sur 10, c'est avec une personne connue. Et c'est vrai que dans l'ensemble, c'est parfois plus facile de réagir avec quelqu'un qui est inconnu, parce qu'on est en état déjà... C'est pas totalement une surprise. Et en plus, elle avait déjà été...
Il y avait des précédents,
donc ouais. Ça lui a permis de mobiliser ses ressources. Mais quand il s'agit d'une totale surprise, d'une situation qui bascule totalement alors que rien n'était prévu, les victimes sont totalement sidérées, incapables, dans l'incapacité de réagir, et sont ensuite totalement dissociées. Alors là, en revanche, on voit dans le témoignage qu'après, elle est complètement déconnectée. C'est qu'elle n'arrive pas à prendre la mesure de la gravité de ce qui s'est passé. Or, pourtant, elle a été terrorisée. Ça, c'est des mécanismes de sauvegarde qui sont mis en place dans le cerveau, qui anesthésient émotionnellement. Et c'est pour ça que, spontanément, elle va dire « c'est rien ». Mais comme souvent, les victimes...
Même si, effectivement, c'est assez surprenant, parce qu'elle dit, c'est à moi que c'est arrivé, alors que je venais de participer à une campagne contre le harcèlement sexuel dans le métro.
Donc, c'est pas une faute de savoir, c'est simplement que c'est des mécanismes psychotraumatiques, que là, la terreur a été telle que le cerveau a disjoncté, a mis en place un mécanisme de sauvegarde qui anesthésie émotionnellement, et qu'elle ressent pas l'émotion qu'elle devrait ressentir. Et là, heureusement, les policiers mettre les mots qu'il faut, mais elle est justement en dehors du danger. La plupart des victimes, elles restent avec le danger puisque c'est des proches et qu'elles vont continuer à voir et elles vont continuer à être dissociées. Et ça explique pourquoi c'est si difficile de réaliser ce qui s'est passé, et de pouvoir agir pour porter plainte quand c'est quelqu'un que l'on connaît. On sait que c'est pour ça que le nombre de plaintes, c'est surtout des personnes qu'on ne connaît pas.
Oui, Catherine Perel-Mutter, justement sur le fait que l'agresseur, dans ce cas de figure, a été condamné, et le policier qui l'encourage à porter plainte.
Oui, je crois que c'est un rôle très important des policiers qui écoutent les victimes, parce qu'effectivement, je pense que la victime, elle a été soulagée de ne pas être violée, et du coup, elle a minimisé l'agression sexuelle. Alors que c'est quand même très important, voire dans cette affaire, elle a l'air de dire que c'était une tentative de viol. Oui. Et à ce moment-là, la tentative de viol, c'est même la compétence de la cour d'assises. Donc effectivement, le policier, je pense, a eu un rôle tout à fait intéressant de rassurer la victime et de l'encourager à porter plainte, ce qu'elle a fait. Donc c'est vraiment, c'était un très bon policier.
Une situation qui n'est pas tout le temps celle-là.
Non, pas du tout. Effectivement, elles ne sont pas toujours reçues aussi favorablement, même s'il y a eu quand même un certain nombre de formations qui ont été faites pour les policiers. Mais malheureusement, elles ne sont pas toujours reçues de la même façon.
Donc un an après le mouvement MeToo, l'inadaptation des services publics, des services de police, pardon, est toujours...
Non, je ne dirais pas ça comme ça. Là, ce qui s'est passé, c'est que le policier, ça s'est passé pratiquement sous ses yeux. Il voit l'agresseur, son réflexe, alors là, pour le coup, il n'est pas dissocié, son réflexe de force de l'ordre, il fait régner l'ordre. Ce qu'il a d'exceptionnel dans sa pratique, enfin, ce qu'il a de particulièrement intéressant, c'est qu'il va ensuite passer du temps avec cette victime pendant que l'autre partie de l'équipe s'occupe des menottes et de la garde à vue. Et ça, c'est là qu'il y a une qualité qu'on ne retrouve pas à chaque fois. Mais c'est vrai que sur l'intervention comme ça, je pense que tout policier qui passait là l'aurait fait. La difficulté pour le policier...
Policier l'aurait fait, mais tout policier n'aurait peut-être pas eu cette...
Attention à la victime après.
Effectivement.
Ça dépend si on a une équipe sur laquelle on peut compter, si les deux autres vont bien s'occuper du gardien à vue, etc. Là, c'est bien. Mais la difficulté pour le policier, c'est la personne qui vient au commissariat, j'allais dire sans signe extérieur particulier, et qui raconte qu'il y a 15 jours, il y a 2 mois, il y a 1 an, etc. Et là, c'est vrai qu'il faut rencontrer un fonctionnaire de police réveillé sur la question, parce que c'est difficile.
Et justement, si on ne rencontre pas un fonctionnaire de police qui est au fait de ces questions, quelles sont les répercussions, Muriel Salmona, pour la victime ?
Alors... qu'on le rencontre ou qu'on le rencontre pas, les répercussions sont importantes. C'est traumatisant et ça va générer des conséquences psychotraumatiques. On sait que plus de 70% des victimes de viol, tentatives de viol, présentent des troubles psychotraumatiques à long terme. Donc il y a besoin d'une prise en charge. Et d'ailleurs, c'est le premier recours des victimes de viol, c'est le médecin et le psychiatre pour 30% des victimes. Et ensuite vient la police. Donc il y a besoin d'être prise en charge parce que ça entraîne vraiment des atteintes qui ne sont pas uniquement psychologiques, comme souvent on le pense, mais aussi neurobiologiques, avec des atteintes neurologiques, et que ça nécessite d'être prise en charge, parce que c'est vraiment un impact important sur la santé mentale et physique. Donc ça, c'est nécessaire. Et puis je voulais rebondir sur le fait que là, on est vraiment dans le stéréotype habituel où on pense que les viols se produisent comme ça, par un étranger, le soir, la nuit. Et que ce n'est pas du tout là, la même chose quand il s'agit de proches, particulièrement puisque près de la moitié des viols sont commis par des partenaires.
On parle même de plus de 80% des cas de viol.
Par personne connue.
90%. Les derniers chiffres de...
L'agresseur est une personne
2017,
proche.
Oui. De 2017, les derniers chiffres de 2017, c'est 9 sur 10, c'est 90%. Et que c'est 47% qui sont des partenaires. des conjoints, des ex-conjoints ou des partenaires. Amoureux. Et là, c'est plus du tout la même chose. Parce que là, vraiment, on rentre là, au contraire, dans ce qu'on peut appeler la culture du viol, où ça paraît pas possible parce que c'est quelqu'un de connu, et où les victimes sont beaucoup moins entendues, portent beaucoup moins plainte. C'est 1% des victimes de viols conjugaux qui portent plainte. Parce qu'il y a vraiment cette dimension où la victime va se sentir encore plus coupable, ne va encore moins comprendre, va être encore plus dissociée parce qu'elle va rester en contact avec l'agresseur, et où tous les professionnels vont avoir beaucoup plus de mal à l'accompagner et à prendre en compte la réalité.
Dans un silence, voilà. Catherine Perelmutter.
Oui, parce qu'il y a deux réactions intéressantes de la victime. D'abord, elle minimise ce qui lui est arrivé, parce que je crois qu'elle a eu peur d'être victime d'un viol collectif, parce qu'au début, elle a pas tout de suite identifié les policiers, et quand elle a vu arriver les deux autres personnes, elle a cru que c'était Absolument. Deux autres violeurs. Donc effectivement, oui. D'où le soulagement effectivement important. Et la deuxième réaction, c'est le fait de se sentir coupable. Les infractions sexuelles sont les seules infractions dont les victimes se sentent coupables. C'est quand même incroyable. D'où le travail important des associations pour justement déculpabiliser les victimes de viols et d'agressions sexuelles.
Justement, Marie-France Casalis, comment vous travaillez dans ces conditions-là quand l'agresseur est un membre de la famille et qu'on n'ose pas, qu'on a peur justement de parler de sa situation? Comment on travaille pour convaincre de porter plainte?
Justement, un téléphone comme Viol Femme Information au 0800 05 95 95, on a beaucoup d'appels de femmes qui, quand on décroche, on leur dit Viol Femme Information, bonjour, elle dit je suis pas sûre que ce soit un viol. Et puis elle raconte justement des agressions par quelqu'un qui leur est proche, etc. Et avec elle, petit à petit, on va essayer de les aider à distinguer comment l'agresseur s'est organisé pour arriver à ses fins. Parce qu'ils ont une stratégie, ils ont des priorités, et je ne les vois pas si je suis victime, parce que justement, une de leurs priorités, c'est que la victime ne se rende pas compte de ce qui se passe. Et donc, il va commencer par lui dire des choses gentilles, lui dire des choses aimables, surtout dans une relation affectueuse ou comme ça, et petit à petit, il va la traiter comme un sac à sperme. Elle est là pour ça. C'est normal dans un couple qu'une femme se prête à des rapports sexuels. Donc on va petit à petit lui dire et lui montrer que
c'est pas
finalement
normal.
C'est pas de la sexualité. Je m'excuse de le dire, mais les messieurs ont un système de vidange automatique des testicules. Ils ne sont pas obligés de pénétrer une femme et d'éjaculer dans un vagin.
Il y a un petit système
de sécurité nocturne, voilà. Donc, ça n'est pas un besoin irrépressible. C'est un acte de domination pour marquer sur quelqu'un que son territoire intime n'est plus intime.
Ouais.
Et ça, c'est là qu'on est abîmé. Et donc, ce qu'on va faire avec elle, on appelle ça nous nettoyer la plaie. C'est-à-dire qu'on va petit à petit l'aider à nous raconter les différents moments. Comment c'était avant, comment c'était pendant, comment c'est après. Parce que pour qu'elle se rende compte, non, qu'il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit. C'est interdit, c'est puni. Alors après, est-ce que je porte plainte ou pas? C'est une deuxième étape.
D'accord.
Mais se rendre compte qu'il n'a pas le droit, c'est petit à petit accepter que elle n'y est pour rien. Mmh. Et ça, c'est compliqué parce que notre culture, notre gentillesse, l'éducation des filles, ça a quand même été de faire plaisir, d'être mignonne, bon. Voilà, donc il faut se débarrasser de tout ça. Et là, on va avoir du mal selon les pays, selon les législations.
Justement.
Selon le Sud et le Nord.
En parlant des pays, 7 milliards de voisins, nous sommes en direct avec vos appels au 33 1 84 22 71 71. Alors, nous sommes en ligne avec Henri Franck de Yaoundé. Bonjour.
Bonjour Florelle.
Bonjour. Alors on vous écoute. Vous vouliez parler de l'omerta?
Oui, tout à fait. La loi de l'omerta, la loi du silence, qui est une vieille tradition universelle, il faut l'avouer. Et c'est pour ça que votre panéliste qui évoquait tout à l'heure la difficulté en fonction des environnements, des législations par rapport au pays, c'est tout à fait vrai. Parce que c'est une situation vieille depuis la nuit des temps, on pourrait dire. Il se trouve juste que certains pays se sont avancés, notamment par les femmes, à travers cette journaliste suédoise à laquelle on doit le féminisme contemporain. Et ça avait même un peu commencé avant en Grande-Bretagne. Donc vous voyez que certains pays ont pris de l'avance, d'autres ont suivi, ont même fini par les dépasser, parce qu'à l'heure actuelle, de ces ministres en Afrique, il est très fort, mais la situation généralement patriarcale africaine, et oui. notamment au Cameroun, mon pays, fait de sorte que, comme vous l'avez dit, la gentillesse, la politesse, la soumission, la docilité de la femme, c'est pas pour l'inciter à l'indiscipline, hein, mais tous ces éléments font en sorte qu'elle arrive à confondre et finalement à se culpabiliser lorsqu'elle n'a pas à être coupable. Et ça, pas seulement dans le cadre du viol, dans le cadre des violences physiques et brutales, conjugales et même non conjugales, les violences économiques, les violences psychologiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit dans les couples, mais il faut savoir faire la part des choses. Et tant qu'on ne réglera pas cette question des violences faites aux femmes, vous pouvez être sûr que la société ne sera pas en paix. Parce que le ministre de l'Intérieur, le premier ministre dans une maison, c'est la femme, qu'on le veuille ou pas. Et elle peut faire plus de désordre que nous quand elles sont décidées. Voilà.
Merci beaucoup Henri Franck pour votre témoignage depuis le Cameroun. Catherine Perel-Mutter, une réaction sur ce message?
Oui, il faut savoir que parce qu'on a parlé là des agressions tout à l'heure, des agressions sexuelles et des viols. C'est vrai que les violences conjugales, c'est un fléau très important, puisque je crois qu'en 2018, il y a eu 23% d'augmentation des plaintes, en fait. Et c'est vraiment dû à, je pense, il faut vraiment que la femme prenne sa place. Et sente qu'elle a le droit de vivre paisiblement. Et je pense que c'est important parce que plus une femme se sentira en droit de se faire respecter, parce qu'il faut savoir que les violences conjugales, ça commence jamais, évidemment, par les violences physiques, ça commence toujours par un climat, par les violences psychologiques. On l'entend dans les sous-commissions de droit, on l'étudie, on le travaille. Et c'est vrai que c'est toute une ambiance, en fait. Et pourquoi c'est si difficile de déposer plainte? Eh bien, parce que les femmes sont sous emprise et elles ne prennent pas leur place. Et c'est tellement important pour une femme. Et c'est tellement important aussi, même pour un homme et pour la société dans son ensemble, que tous les acteurs de la vie citoyenne prennent leur place, que si vraiment les femmes prenaient leur place, la société s'enrichirait forcément.
Et le processus de la plainte, c'est le même dans les violences conjugales?
Eh bien oui, il faut déposer plainte, parce que la main courante ne suffit pas à enclencher une procédure. Alors c'est vrai que parfois dans certaines affaires que le procureur juge un peu graves, sur main courante, pour des agressions sexuelles, il peut éventuellement se saisir et enclencher la procédure. Mais dans les violences conjugales, si vraiment les violences conjugales sont importantes, parfois il peut se saisir de la main courante. Mais il faut quand même une plainte, c'est très important. Et c'est vrai aussi que pour rendre l'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales, normalement, en théorie, n'aurait pas besoin de la plainte, mais il s'avère que quand même, quand il y a une plainte, l'ordonnance de protection est beaucoup plus facile à obtenir.
Oui, Muriel Salmona.
Oui, alors je voulais rappeler qu'il ne fallait pas oublier les filles, que les violences démarrent très tôt, très jeunes, que ce soit même pour les violences par partenaire, hein, ça démarre souvent à l'âge de 15-16 ans, où c'est déjà les partenaires qui commettent des violences, et particulièrement pour les violences sexuelles, puisque les principales victimes de violences sexuelles, ce sont les mineurs. Et que là aussi, c'est intrafamilial le plus souvent, 80% des viols en dessous de 15 ans sont intrafamiliales, et qu'on sait qu'avoir subi des violences physiques et sexuelles dans l'enfance multiplie par 19 le risque de subir des violences sexuelles et conjugales à l'âge adulte. Donc en fait, c'est les filles déjà qu'il faut protéger, et que c'est justement les personnes qui ont déjà subi des violences qui vont en subir à nouveau, parce qu'elles ont elles ont été formatées dans un système violent.
Et en plus, elles accepteraient ça plus que...
Alors c'est pas qu'elles acceptent du tout.
C'est qu'elles sont repérées par les prédateurs.
Voilà, elles sont repérées, elles acceptent pas du tout. C'est qu'elles ont des troubles psychotraumatiques très lourds, particulièrement quand les violences ont démarré dans l'enfance, où elles sont dissociées, elles sont déconnectées anesthésiennes émotionnellement, elles n'ont pas les capacités de pouvoir se défendre, et ça c'est lié aux violences qu'elles ont subies, et elles sont repérées pour ça. Et c'est là où il faut absolument identifier toute victime dès le début, protéger les filles et vraiment leur proposer des soins, parce que dire que c'est à elles de prendre en charge leur protection, c'est fou quoi. Oui. C'est le monde à l'envers.
Oui,
il faut les protéger, et les protéger jusqu'au bout, leur donner des éléments temps pour rebondir aussi, pour pouvoir porter plainte. Il faut aussi comprendre ce qui s'est passé. Il faut pouvoir effectivement sortir du système agresseur. Les violences sexuelles s'exercent toujours dans un système de domination, d'inégalité. Plus on est vulnérable, plus on subit de violences. Les femmes handicapées subissent 4 fois plus de violences. Enfin, il ne faut pas les oublier.
Et ça, on ne le dit pas assez souvent.
Voilà, on ne le dit pas assez. Et que là aussi, il faut absolument donner tous les outils pour comprendre que la culpabilité, elle vient du système agresseur, de la stratégie, que la sidération qui empêche les victimes, parce que quand elles sont totalement terrorisées, elles sont paralysées, ce n'est pas du consentement, ce n'est pas qu'elles veulent, que la dissociation, ensuite les phénomènes d'emprise, bah, c'est normal d'attendre souvent, de ne pas pouvoir parler avant des années, si personne ne s'est préoccupé des violences qu'on a subies.
Ça, ce sont des notions qu'effectivement, que ce soit les magistrats ou les services de police doivent
absolument
tenir compte,
connaître,
mais peut-être ne tiennent pas voilà. suffisamment
et qu'il faut absolument, il faut absolument qu'il y ait un dépistage universel des violences. Si on veut lutter contre les violences, il faut lutter contre les violences le plus tôt possible, protéger les victimes, leur poser des questions, ne pas attendre qu'elles parlent. Moins de 10% des victimes de viol et de tentatives de viol portent plainte, 4% seulement quand elles sont mineures portent plainte et ou sont signalées. Et alors dans les violences, dans les viols conjugaux, c'est 1% seulement de plainte. Donc la marge de manœuvre, elle est énorme. Il faut oui. que tout le monde s'y mette, et particulièrement les professionnels.
Et nous parlons ici de notre situation, ici. Ça oui. peut être encore plus difficile ailleurs, parce que
tout
pour oser porter plainte,
et on
il
va
faut
voir ça justement
qu'il y ait
tout de
une
suite.
Interdiction quelque part.
Tout à fait. 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec Caroline, 30 ans de Pointe-Noire. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors, on vous écoute. Vous vouliez nous faire part de votre expérience?
Oui, en fait, avant, je voudrais d'abord poser une question à la dame qui a répondu en premier. À quel moment on juge important un harcèlement ou une agression? Est-ce qu'il faut déjà avoir des marques ou juste, je ne sais pas, à quel niveau l'agression devient importante? Et puis, pour raconter ma petite histoire, en fait, j'ai failli être violée, abusée quand j'avais 16 ou 17 ans. Par un des locataires de mon oncle. En fait, à l'époque, j'habitais avec ma mère chez mon oncle. Et une fois, j'étais toute seule à la maison, dans la nuit. Et le monsieur, il m'appelait pour lui remettre son assiette qui était chez moi. Donc, je suis allée chez lui et je lui ai rendu l'assiette. Et en lui tendant l'assiette, il m'a tirée vers lui. Et pris de peur, pris de panique, je me suis détachée de lui et puis je me suis enfuie parce qu'il était sous. Et le lendemain matin, en sortant pour aller à l'école, on s'est croisés et il s'est excusé par rapport à ce qui s'était passé hier soir. Et il a voulu me soudoyer.
Il vous a donné de l'argent ?
Oui, oui.
Il a voulu vous donner de l'argent, d'accord.
Exactement.
Et vous en avez...
Oui,
on vous écoute.
Je me suis enfuie en fait. Et toute la journée à l'école, ça m'a travaillé. Donc, en rentrant à la maison, je suis allée voir une de mes voisines à qui j'ai raconté ce qui s'était passé. Et c'est elle, par la suite, qui est allée voir ma mère et qui en a parlé. Et 3 jours après, il y a eu une réunion de famille. Ils se sont entendus entre eux là-bas et puis ils m'ont fait asseoir. Et la seule question qui m'a été posée, c'était de savoir est-ce qu'ils avaient l'habitude de me donner de l'argent. Donc, personne n'a voulu savoir ce qui s'était passé,
comment vous alliez.
Oui. Voilà, personne en fait. Tout ce qui les intéressait, c'était de savoir est-ce que j'avais déjà une relation en général en fait avec lui. Et d'accord. Là, étant enfant, puisqu'on entend souvent les parents dire quand quelqu'un te fait quelque chose, quand quelqu'un t'agresse ou te touche ici ou là, c'est mieux de dire aux parents. Et si moi je dis et que vous, au final, vous ne faites rien,
absolument.
À ce moment-là, pourquoi je vous le dirais?
Ouais.
Parce que quand vous demandez à un enfant de dire quand il est agressé, l'enfant attend que le parent réagisse.
Et, c'est le...
Et quand vous ne réagissez pas, vous arrangez les choses à l'amiable pour le confort de tout un chacun par rapport aux relations que vous avez avec la personne. À ce moment-là, je me dis à quoi ça sert de parler.
Très, très bonne question, justement. Merci beaucoup, Caroline, 30 ans de Pointe-Noire. On va tenter, justement, de vous apporter des réponses.
Oui, parce qu'en France, le mineur ne peut pas rester tout seul en justice. Il est représenté par un majeur. Donc, en général, effectivement, s'il est victime par un inconnu ou un tiers, il est représenté par ses parents, qui sont donc les représentants légaux. Mais si ses parents ne déposent pas plainte, il ne peut pas porter plainte tout seul. Alors, dans certaines affaires, moi je suis avocat d'administrateur ad hoc. Parfois, ce sont les parents qui sont les auteurs des maltraitances,
souvent,
ou des agressions sexuelles.
Le plus souvent,
parce que c'est 90%, absolument.
Dans ces cas-là,
le procureur désigne un administrateur ad hoc pour représenter l'enfant. Contre les parents, en fait. Donc, c'est une possibilité, effectivement, qui est donnée...
Contre les parents.
Contre les parents, puisque les parents sont auteurs. Donc, ils ne peuvent pas être représentés par les parents, puisque les parents sont auteurs. Moi, je défends régulièrement des enfants qui sont maltraités, qui sont victimes de violences, d'agressions sexuelles, et je représente l'administrateur ad hoc qui est administrateur ad hoc de ces enfants devant le tribunal correctionnel ou les cours d'assises.
C'est peut-être différent selon les pays, mais par contre, la première remarque de Caroline en disant à quel niveau c'est du harcèlement sexuel,
oui.
Je dirais au niveau que ressent la personne objet, la personne cible.
C'est-à-dire, dès lors qu'on se sent mal,
est-ce que ça me fait oui ou est-ce que ça me fait non ? Et cette jeune Caroline à 16 ans, elle a eu des réactions tout à fait épatantes. Parce que c'est comme si on avait des petites antennes qui nous disent ce gars-là, il est bizarre, il est louche, il va me faire quelque chose. Il n'a encore rien fait. Il a pris une assiette, etc. Et elle a eu tout son système d'alerte qui s'est mis en route. Elle a foutu le camp. Elle est sortie de la chambre très vite. Et ça, c'est magnifique. Elle devrait être félicitée pour ça. Et c'est ça que ses parents auraient dû retenir. Le fait que le monsieur, le lendemain, se mettre sur son chemin quand elle part à l'école pour essayer, elle a utilisé le terme soudoyer, c'est très fort, elle a été tout à fait capable de voir la stratégie de cet agresseur. Car un agresseur, il a une stratégie, il vous isole, il a fait ça en pleine nuit, il a fait pas ça en plein jour, il essaye de vous demander de l'aide. Il a besoin de son assiette, le pauvre vieux, vous rendez compte, en pleine nuit. Donc j'y suis allée et je vais croire que j'y suis pour quelque chose, alors qu'on n'y est pour rien.
Alors selon une enquête des Nations Unies publiée en 2016, les femmes sur le continent africain sont plus exposées aux violences sexuelles, avec bien sûr des grandes disparités entre pays. Mais si le mouvement MeToo a libéré la parole en Occident, en Afrique, elle l'a libérée plutôt dans la sphère privé, effectivement. Et il y a ici des messages Facebook que vous nous laissez sur notre Facebook, comme celui de Joël qui a 38 ans à Douala, qui nous dit: beaucoup de femmes sont battues ici, elles ont peur de porter plainte car elles ne connaissent pas leurs droits, il faut arrêter de brimer les femmes, si elles se rapprochent des affaires sociales rien n'est fait malgré la politique du gouvernement. Ou encore Martin au Cameroun, toujours: la violence faite à l'encontre des femmes est un manque de civilité, car un homme civilisé qui respecte les droits de l'homme n'oserait jamais lever la main sur sa femme. Après tout, les femmes sont nos mamans. Les femmes, surtout celles du continent africain, sont vues comme des objets et non comme des personnes. À cause de ça, elles ont peur de déposer une plainte pour que justice soit faite. Et puis Mohamed aussi, des Comores, qui nous dit: la violence contre les femmes n'est pas prise au sérieux car peu de femmes témoignent chez nous. C'est une honte de dire que son mari la bat, mais oser dénoncer la maltraitance de son conjoint, c'est un moyen pour faire changer les comportements. Alors, Muriel Salmona.
Oui, et en tout cas, ça montre bien à quel point toute la société doit participer, et que pour pouvoir porter plainte, faut être en capacité de le faire. Déjà, faut pas être trop petit, faut pas être trop handicapé, faut pas être trop traumatisé. Et puis, il faut être entendu. Et faut pas être menacé non plus, parce que ça aussi, je voulais rebondir là-dessus, c'est que la plupart des personnes qui subissent des violences, particulièrement par des proches, sont victimes de chantage, de menaces de mort.
Et elles ont peur
à juste titre. Donc il faut aussi prendre en compte cette menace-là, et surtout il faut les croire, et il faut entendre leurs paroles, il faut que les enfants puissent parler, il faut aussi donner des informations aux enfants à qui ils peuvent parler, parce que leurs proches, c'est pas forcément les bonnes personnes, là on l'a vu, mais ça peut être aussi à l'éducation nationale, un médecin, ça peut être des éducateurs. Donc il faut multiplier la possibilité d'entendre ces victimes-là, et aussi leur donner des éléments pour comprendre pourquoi elles se sont senties coupables, qu'est-ce qui a fait la stratégie de l'agresseur, la culture des violences qu'il peut y avoir, où on va mettre en cause la victime, et donner comme ça beaucoup de ressources pour pouvoir échapper à toute cette loi du silence et à ce déni qui pèse sur les victimes, et la prise en charge des troubles psychotraumatiques, puisque ça a un impact sur la santé majeur.
Oui, Catherine Pierre-Mutter.
Parce qu'en France, il n'y a pas de système de protection des témoins. C'est-à-dire que si on dépose plainte, après, on est à la merci de l'agresseur. Aux États-Unis, quand vous déposez plainte, que vous êtes témoin, vous pouvez être protégé. On vous fait déménager, on vous change l'identité. En France, ça n'existe pas.
Oui. Marie-France Casalis, vous voulez ajouter quelque chose ?
Ah, la protection des victimes de viol en France n'existe presque pas. Et c'est vraiment un grand dommage. On a tout à l'heure évoqué un dispositif pour les violences exercées dans le couple, avec cette ordonnance de protection, l'éviction du conjoint violent, toutes sortes de choses, le téléphone grave danger. Mais la victime de viol par des agresseurs qui habitent l'immeuble d'en face, qui a 16 ans, c'est très complexe. Alors, si elle est en capacité de dénoncer les faits, parce que porter plainte, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que je dise avec des mots quelque chose qui n'a pas de mots. Et déjà, ça, c'est difficile. Ensuite, je vais dire...
quelque chose que j'ai intériorisé, parfois.
Oui, et puis c'est pas facile de décrire ces choses-là. Je vais les dire, et je ne pourrai dire qu'une partie des choses, parce qu'au moment où elle est en train de le dire, elle se rend compte de ce qu'elle met en route, et ça lui fait peur, et elle se dit, mais comment est-ce que l'agresseur va répondre ? Comment est-ce que les agresseurs vont répondre ? Et finalement, c'est tout à l'heure, une de vos correspondantes disait une vieille tradition multiséculaire. La vieille tradition multiséculaire, c'est que le corps des femmes est à la disposition des hommes. Alors, on bouge là-dessus, on a du mal, et on ne pourra avancer que dans des pays déjà où l'accès à la liberté de la contraception et de l'avortement sont reconnus, parce que tant qu'on n'est pas soi-même déjà libre par rapport à son propre corps, on aura du mal à reconnaître l'impact des autres choses. Et puis surtout, la question des enfants est capitale, et notre pays en ce moment... est plutôt dans une situation inquiétante par rapport à ça.
C'est l'impunité la plus totale, c'est aussi, il faut le savoir quand même, pour les viols, je veux dire, on est quand même avec, sur l'ensemble des viols, on est avec 1% de condamnation.
1% de condamnation, oui.
Donc, et moins 40% de condamnation dans les 10 dernières années.
Ça dérange les institutions quand une femme porte plainte pour agression
Là, il faut croire que pour les viols, ça dérange vraiment, puisqu'on a 40% de condamnation en moins. Et que c'est quand incroyable. Une victime...
Et 20% sur les agressions sexuelles.
Et quand une victime porte plainte, hein, il y a 70% de classement sans suite, c'est-à-dire qu'on n'entend pas sa parole et que du coup, qui dit classement sans suite, dit absence de
reconnaissance
d'instruction.
La parole, justement,
je vais peut-être réagir juste par rapport au système de protection des témoins. Je me souviens d'une affaire de viol collectif en 2001, où le lendemain du procès, où ils avaient été déclarés coupables, mais ils étaient sortis le soir même, puisque la détention provisoire avait été couverte parce qu'ils étaient mineurs, la victime a été encore agressée verbalement, et elle a dû déposer plainte au parquet de permanence le lendemain. Et le soir même du procès de viol collectif en 2001, une jeune fille qui avait été violée dans les caves à Paris 18e, ils ont dû faire sortir par deux portes différentes les accusés et la victime. Donc c'est quand même
Et le club de soutien des accusés.
Alors, tu t'en souviens ?
Nous sommes en ligne avec Awa Cissé, qui est membre de l'Association des juristes sénégalaises défendre les droits des femmes et des enfants. Bonjour Awa.
Bonjour.
Alors, vous travaillez donc à Dakar, vous participez à libérer la parole justement sur ces questions de la femme sénégalaise. Expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez, comment ça se passe là-bas.
Comment ça se passe par rapport aux victimes de violences? Vous savez que la lutte contre les violences basées sur le genre est une de nos principales actions. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie, à travers nos boutiques de droit, d'accueillir les victimes, de les écouter et de les orienter vers...
Qu'est-ce que c'est, les boutiques de droit?
Les boutiques de droit, c'est des centres d'écoute, d'accueil, d'orientation. Et tous ces services sont donnés à titre gratuit aux victimes de violences.
Formidable.
Notamment les femmes et les enfants.
Et on avait une question de Pauline sur le Facebook aussi. Comment se déroulent les dépôts de plaintes dans des pays où les femmes sont peu considérées, notamment au Sénégal? Comment ça se passe alors, du coup, dans un cas de figure comme ça?
Essayer de vérifier à travers tout le territoire national et à travers nos boutiques de droit et les différentes causeries que l'on fait au niveau des petites localités avec la communauté. Ce numéro est connu. Les femmes et les hommes, je veux dire toute la communauté, est sensibilisée par rapport aux violences faites aux femmes et aux enfants, et aussi l'existence de numéros verts, et qui savent que quand il y a violence, il peut y avoir recours et qu'il y a une procédure, et elles sont informées sur la procédure à suivre, et elles sont surtout accompagnées.
Et donc, après le mouvement MeToo, vous avez enregistré plus de femmes qui sont venues vous voir pour leur parler de leur situation?
oui, pas seulement le mouvement tout, mais les actions que les femmes juristes font au niveau même de l'association, les campagnes d'information, d'échange et de formation, et on inclut un peu tout le monde, les enseignants, la police, la gendarmerie, on a des échanges et aussi des formations en technique d'écoute, de counseling, technique d'accueil des victimes, surtout parce que souvent la victime a peur, peur de ne pas avoir les moyens de se défendre, peur d'être mal accueillie dans les structures hospitalières ou policières. Donc, il y a un travail qui est fait avec tous ces acteurs.
Et bien souvent, on ne connaît pas également quelles sont les lois qui peuvent être appliquées.
L'ignorance est la principale cause pour laquelle elles ne portent pas souvent plainte, au-delà même aussi de la pesanteur sociale, de la pesanteur sociale et aussi de la pression familiale.
Merci.
Et on fait beaucoup de travail de vulgarisation.
Merci beaucoup, Awa Cissé, qui était avec nous depuis Dakar. Oui.
Oui,
Marie-France Casalis.
Cette parole des femmes, vous aidez à ce qu'elle émerge en faisant des émissions comme celle-ci. Parce que, et c'est pour ça que ce mouvement MeToo, c'est un encouragement formidable qui permet de sortir de l'isolement dans lequel sont recluses les victimes de viol. Après un viol, la plupart des victimes se sentent salies, se sentent honteuses et pensent qu'elles ne sont plus comme toutes les autres femmes. Nous pouvons leur dire, nous sommes toutes pareilles. Nous sommes toutes pareilles et parlez à vos voisines, parlez à vos 7 milliards de voisins.
Il y aura quelqu'un aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui,
qui va entendre votre parole et qui va vous aider à nettoyer cette blessure.
Et justement, la parole a été entendue encore une fois aujourd'hui puisque nous sommes en ligne 33 84 22 71 71 avec Aziza qui est congolaise et qui travaille justement pour une institution qui lutte contre les violences sexuelles. Bonjour Aziza.
Bonjour Florène, ça va tout le monde?
Oui,
merci.
Ça va,
merci.
Bonjour.
Voilà. Alors on vous écoute.
Ok, voilà, dans le cadre de notre programme, nous travaillons aussi avec des femmes victimes de viol dans la région des Grands Lacs et nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'obstacles pour ces femmes à porter plainte. Déjà à porter plainte parce qu'il y a deux grands types d'obstacles, on va dire. Il y a toute une série d'obstacles socioculturels qui les freinent et une série d'obstacles structurels. Alors, pour en revenir aux obstacles socioculturels, c'est qu'il est très difficile pour une femme dans la région des Grands Lacs, soit au Burundi, au Rwanda ou au Sud Kivu, d'affirmer ou de dire qu'elle a été victime de viol. Parce que la culture, déjà, identifie qu'une femme appartient à un seul homme.
Absolument.
Qu'elle soit violée, qu'elle ait une relation sexuelle consentie ou pas avec un autre homme, c'est déjà un préjudice pour elle. Donc la plupart des femmes vont tout faire pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui soient au courant qu'elle a été agressée ou violentée. Parce que forcément, on va dire que c'est elle qui l'a provoquée quelque part. Ensuite, il y a aussi tout ce problème lié à la famille. Quand c'est un inceste, ou bien quand c'est quelqu'un qui est connu, ou bien quand c'est quelqu'un qui a un fort pouvoir dans la communauté, il y a tous ces risques de représailles, tous ces risques de fragmentation de la société ou de la communauté. Il va la freiner. Il n'est pas rare de voir que dans la famille, on demande à la fille ou on demande à la femme de calmer le jeu, comme on dit, ou de ne pas porter plainte pour justement que la famille ne soit pas désintégrée par rapport à ça. Parce que c'est très mal vu d'amener quelqu'un de sa propre famille ou quelqu'un qui a un lien avec la famille à la justice. On pense qu'on peut toujours tout régler à l'amiable et on demande encore à la fille de prendre sur soi pour qu'elle ne porte pas plainte. Alors, c'est c'est dévastateur pour ces personnes-là, surtout pour les enfants ou pour les femmes, parce qu'elles n'ont pas quasiment de soutien ou de protection au niveau de la famille. Et tout le programme s'articule justement sur ça pour trouver des possibilités ou des solutions pour que les droits de ces filles soient rétablis. Alors, même pour celles qui auront dépassé ces obstacles socioculturels, commencer à porter plainte devient un parcours de combattant, parce qu'il faut aller à la police. Et dans la région, les systèmes sont, les états sont tellement faibles que la police ne joue pas vraiment son rôle. Si j'ai exclu le Rwanda, où quand même le système est assez fort, que ce soit au Burundi ou en RDC, la police n'est pas vraiment outillée en termes de ressources humaines, mais aussi en termes d'infrastructures tout court, pour faire toutes les nécessaires possibles pour commencer tout ce qui a trait à la plainte et tous les informations juridiques aujourd'hui.
Merci beaucoup Aziza qui nous a appelé depuis le Burundi pour votre témoignage édifiant. Merci pour le travail que vous faites. Il y a également des messages WhatsApp que vous pouvez nous envoyer. On a justement un message de Rodrigue qui est à Kampala.
Moi, c'est Rodrigue Mouderoua, je suis congolais. Je vis en Ouganda, Kampala. Je voudrais savoir, concernant une femme violée qui ne veut pas rendre public son problème, comment doit se comporter son entourage proche qui est au courant de sa situation?
Alors, Salmana.
C'est vraiment déjà petit un de l'entendre, de la croire, d'être solidaire, de l'accompagner, de surtout pas être... en fait, parce que le risque, c'est toujours... on veut bien croire les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, de viols, si c'est un étranger à la famille, mais quand c'est à l'intérieur de la famille ou quand c'est une personnalité, quand c'est quelqu'un qui a de l'importance par rapport à la communauté, là, plus personne n'est là pour le croire. Donc, c'est vraiment d'entendre et de pouvoir vraiment concevoir voir que même quelqu'un qui paraissait tellement bien est quelqu'un qui est susceptible de commettre des viols. Et puis vraiment de faire en sorte qu'il y ait un accompagnement, de comprendre les mécanismes. C'est-à-dire qu'il faut aussi que tout le monde comprenne qu'avoir subi un viol, c'est une véritable torture. Ça n'a rien à voir avec de la sexualité. C'est un acte cruel, dégradant, inhumain. Et que les personnes qui subissent ces violences ont un besoin énorme d'accompagnement, de solidarité, et que leurs droits soient respectés. Il faut sortir du système où même en France, 83% des victimes de viols et de violences sexuelles ne sont jamais ni reconnues ni protégées. Et c'est un problème de santé publique majeur aussi.
Il y a deux combats à mener.
Je voudrais revenir sur l'explication des classements sans suite et des relax. Ça me paraît important pour expliquer la logique de la victime et la logique judiciaire. Il y a deux logiques qui s'opposent. C'est la logique de la victime, effectivement, elle a subi donc des faits de viol ou d'agression sexuelle, et la logique judiciaire qui exige la preuve.
Oui.
Et c'est ça le problème en réalité, parce que alors il faut
savoir.
C'est difficile de prouver une agression sexuelle ou un viol, parce qu'on est évidemment il n'y a pas de témoin. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est que souvent on dit c'est parole contre parole, mais en fait c'est une parole traumatique. Et il faut comprendre ce que c'est qu'une parole traumatique, et je crois que Muriel Salmona dans ses travaux l'explique très bien. Et effectivement, c'est souvent un faisceau d'indices comme ça qui concourt à établir la culpabilité, mais ces deux logiques, ça amène beaucoup forcément de relax ou d'acquittement. C'est un semblant d'explication.
Par rapport à cette question de la plainte,
parfois, pas toujours,
et à tous ces témoignages qu'on a reçus sur le continent, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui en 2018 peuvent participer justement à libérer cette parole, à faire avancer les choses?
Oui, tout à fait. Oui, parce que la victime de viol a un combat à mener sur deux fronts, voilà. Pour ses droits et pour elle-même. Car le plus important, c'est quand même la suite de sa vie.
Oui, et pour les autres aussi. C'est-à-dire que les victimes veulent que les autres personnes soient protégées.
D'accord.
Aussi.
Mais déjà qu'elles prennent soin d'elles-mêmes. Mmh. Et c'est là-dessus, c'est pas parce qu'elle a porté plainte que ses blessures seront cicatrisées. Mmh. Et c'est pas plus... Voilà. Donc, c'est vrai qu'accueillir la parole, ça veut dire « je vous crois ». Il n'avait pas le droit de vous faire ça. Vous seriez en droit de porter plainte. On va vous aider. Et c'est vrai que ici en France, en tout cas, au téléphone, on essaye d'aider les femmes à transmettre leur récit, peut-être à l'écrire. En tout cas, nous, on le consigne. On lui dit, on a noté tout ça, si vous en avez besoin.
C'est déjà le mot de la fin.
Je ne sais pas si on peut écrire
c'est
autant
très vite. C'est déjà le mot de la fin,
dans tous les pays, mais voilà.
Je voulais comme mot de la fin,
très
j'espère quand même qu'on va mettre en place, en France, un seuil d'âge du consentement. Qu'on ne peut plus considérer qu'un enfant de moins de 15 ans puisse être consentant à un acte sexuel.
Merci beaucoup. Moi, j'ajouterais que l'allocation de dommages et intérêts est très importante.
C'est déjà fini. Merci beaucoup à toutes les trois, Catherine Multer, Marie-France Casalis. Merci beaucoup à toute l'équipe de 7 milliards de voisins de m'avoir accueilli. Demain, 7 milliards de voisins, vous retrouverez Emmanuel Bastide à Dakar pour une émission en public. Les écoles privées sont-elles une alternative aux universités publiques surpeuplées? C'est le thème de demain. À bientôt. Merci.